Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h. Ici, soutient les talents locaux.
Vous écoutez Yannis Kroos.
Quand j'y pense, ça ne change pas. Je n'aime pas le silence quand t'es pas là. Je veux vivre, mais pas sans toi.
Pas sans toi.
J'aimerais nos montres pour être seul sur terre, pour que les secondes s'écoulent.
Né à Valence, dans une famille de musiciens, sa voix était toute tracée pour écrire, composer et bien sûr chanter.
La vie est assez longue, on verra l'univers. On volera au-dessus du monde, plus haut que dans nos rêves, que nos âmes vagabondent seconde par seconde. On jettera nos montres pour être seul sur terre, pour que les secondes s'écoulent, mais à l'envers. On jettera nos montres pour être seul sur terre.
Yannis Kroos avec On jettera nos montres.
Un coup de cœur, ici Drôme Ardèche.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Mayenne.
Il y a un truc qui nous rassemble tous, nous les Mayennais, c'est bien sûr le bon Mayennais. La vache broute dans les champs, puis ce lait précieusement pasteurisé pour fabriquer du fromage. Et ce fromage délicatement conservé dans cette boîte, oui, celle-ci, avec le couple si mystérieux dont personne ne connaît l'histoire, mais où tout le monde se raconte une histoire. Une recette qui marche depuis 1912. Audrey Gaillot, chargée de communication pour la société Vaubernier, implantée à Martigné-sur-Mayenne.
On est habituellement quatrième marque nationale la plus vendue en France, mais sur le mois de décembre, on a eu la bonne surprise de voir que on était passé troisième.
Et si au départ il n'y avait que le bon Mayennais, désormais la marque est une référence en France. Catherine Drezen, présidente de Vaubernier.
Aujourd'hui, ce sont 130 collaborateurs qui travaillent. Nous fabriquons une large gamme de fromages et de produits laitiers bon Mayennais. Camembert, brie, coulommiers, lingots, carré.
Ah, mon camembert est prêt. Ça, avec du pain alors. L'entreprise Vaubernier fait travailler plus de 170 producteurs de lait autour de la fromagerie.
On met un point d'orgue à faire que nos fromages soient de qualité. Et puis, on a des consommateurs qui nous sont fidèles.
Oui, et d'ailleurs, pas plus fidèles que moi, parce que moi, j'ai le bic 4 couleurs bon Mayennais grâce à ça, pardi, au point. Ils existent depuis le début. Vous les échangez pour avoir un cadeau. Et forcément, ça fait un succès fou, comme le souligne Catherine Drezen.
Sur l'année 2025, on a à peu près échangé par point ou vendu 45 000 objets à l'effigie de bon Mayennais.
Et comme le dit Audrey, les objets sont variés.
On a quand même une trentaine d'articles qui sont disponibles sur la boutique, donc on y retrouve des tabliers, des torchons, des sacs isothermes. Quand on passe dans différentes maisons, on voit toujours des petits coins qui sont dans les petits pots et les gens ont l'habitude de les conserver. Donc je pense que ça se passe de génération en génération.
C'est vrai, ça, finalement, tout le monde a une histoire avec le bon Mayennais.
L'habitude de voir le camembert sur la table le dimanche avec ses grands-parents, et finalement, c'est des choses qu'on produit nous aussi avec nos enfants. Et donc pour nous, c'est vraiment une fierté de voir que ça, la marque se transmet.
Et même si la recette du camembert, le bon Mayennais, n'a jamais changé, la tradition n'empêche pas l'innovation.
Donc la finie 1912 au mois de septembre, qui a un peu plus de caractère par rapport à notre camembert historique. Autre exemple, sur le fromage le léger, on a revu le pack là récemment pour pouvoir faire émerger la notion de riche en protéines, qui est aujourd'hui sur le marché un point qui est important, notamment pour les sportifs.
Ça y est, j'ai fini mon camembert au four. Bah du coup, je vais courir.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici, Pays de Savoie.
Les petits bonheurs, généralement, ce sont des sourires qui se récoltent tous les jours au hasard des rencontres. Il suffit d'un micro ici, de ne surtout pas prendre de rendez-vous et de ne pas se présenter. Ça marche très bien à Megève, par exemple. Nous sommes donc en Haute-Savoie, sur les hauteurs de Megève, au Mont d'Arbois, pendant que des chevaux sont en train de monter dans une bétaillère.
Bonjour.
Bonjour. Matin de bonne heure, venez vous occuper des bêtes.
C'est ça, on vient les mettre au chaud, ouais.
Ah, c'est-à-dire que là, ils quittent la montagne?
Ouais, ce coup-ci, ouais, c'est bon. Ce coup-ci, on va les ramener, on va les mettre en pension pour cet hiver, ouais. Ils ont passé tout l'été en montagne, donc ce coup-ci, ça y est. Ils vont aller se mettre au chaud pour l'hiver.
Ah oui, ils font toute la saison
là,
ici?
Ouais, ouais, ceux-là, ils font toute la saison ici. Il y en a qui sont là pour la monte, il y en a qui sont là pour l'attelage. Et puis, vu que nous, on est élevage, il y en a, ils sont juste là pour grandir.
Vous, c'est pas juste un loisir, c'est votre métier?
Ouais, ouais, moi, c'est mon métier. Ouais. Je suis cocher palefrenier. Ouais.
Quand vous dites pour l'attelage, c'est les calèches qu'on peut voir à Megève, par exemple?
Exactement, c'est ça.
Donc, les chevaux, quand ils sont pas attelés, on les voit ici sur les hauteurs de Megève?
Ouais, c'est ça. Nous, on en a bah, à l'Alpette, comme là en face, en haut de la côte 2000. On en a aussi au Mont d'Arbois, là, juste derrière. Et puis, bah, après, au fur et à mesure de la saison, on les fait descendre petit à petit. Puis bah là, ils atteignent leur point le plus bas sur Megève. Puis après, on les change de département. Et puis voilà.
Donc là, ils montent dans le bus.
C'est ça, ouais. Ils montent dans le bus. Là, je vais en mettre 4. Là, après, j'ai mon patron qui va arriver. Il va prendre le reste. Et puis après, on va prendre un camion et une remorque. Puis on y charge tout dedans. Puis lui, il part cet après-midi.
Et là, ils partent où, hein, en résidence d'hiver?
Ils partent dans l'Allier, ceux-là. Ils partent dans l'Allier. Ils ont des gros champs de plusieurs hectares où c'est qu'ils ont du foin, des abris pour eux, de l'eau à volonté. Puis voilà.
L'Allier, donc en Auvergne, si je ne m'abuse, il fait pas beaucoup plus chaud qu'ici l'hiver.
Non, non, il fait pas beaucoup plus chaud, mais par contre, ils auront plus d'herbe qu'ici, on va dire. Ils auront moins de neige, ils auront un peu plus de foin, un peu plus d'eau, parce que nous ici, bah, c'est qu'on est tout de suite dans la neige, et puis nous, on n'a pas assez de foin pour tous les nourrir l'hiver, donc on préfère les mettre en pension. C'est beaucoup plus agréable pour eux. Puis bah, pour nous, l'hiver, on a déjà bien assez de boulot comme ça, donc au moins, ils sont un peu tranquilles aussi de leur côté.
Alors justement, vous faites quoi l'hiver si vous avez plus de chevaux?
Alors, c'est pas qu'on en a plus, c'est qu'on en a moins. Toute la partie élevage, en fait, part tout en pension, et en fait, l'hiver, nous, on fait énormément de calèches. Sur Megève, on a des grosses calèches qui montent jusqu'à 12 personnes. C'est qu'on fait les fondus en calèche en soirée ou le midi, et on fait juste des balades en calèche.
Bon, vous, j'imagine que le cheval, c'est une passion, on fait pas ce métier-là par hasard.
Mon grand-père était déjà éleveur de chevaux, là, maintenant, je bosse chez un ami de mon grand-père. Puis voilà, après, on fait ça par passion. De toute façon, c'est pas par l'argent qu'on va le faire, hein, comme dans tout métier agricole.
Même à Megève.
Même à Megève, l'agricole, ça reste l'agricole, à Megève ou pas.
Je peux vous demander votre prénom?
Moi, c'est Mathieu, moi.
Et c'est quoi le dernier petit bonheur de Mathieu, s'il vous plaît?
Mon dernier petit bonheur, c'est d'avoir fait un galop sur les crêtes de la côte 2000 en plein été avec le soleil couchant. Et ça, je pense que je m'en souviendrai jusqu'à ma mort.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Saint-Étienne-Loire.
Complètement gaga.
De vos parler d'ici.
Et Olivier, ce matin, retourne à l'école primaire aujourd'hui.
Eh oui, et pour y trouver du gaga. Mais blé, je voudrais aujourd'hui vous parler du mémoire de Judith Boucher, réalisé l'an dernier à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, et qui s'intéresse à une question rarement étudiée. Comment le parler stéphanois, le gaga, circule encore aujourd'hui dans les écoles primaires, et dans quelle mesure le parler des enseignants influence le parler des élèves? Son travail porte sur toutes les classes de l'école primaire, en milieu urbain comme en milieu rural. Judith a formulé trois hypothèses. Premièrement, le gaga serait peu utilisé par les enseignants en situation d'enseignement. Deuxièmement, lorsque les enseignants l'utilisent, les élèves auraient tendance à le reprendre. Et troisièmement, le gaga serait plus présent dans les écoles rurales que dans les écoles urbaines. Pour répondre à ces questions, elle a observé des classes, mené des entretiens avec les enseignants et avec les élèves, et elle a mené des observations dans les temps informels à l'école. Son analyse porte à la fois sur le vocabulaire gaga et sur des structures spécifiques comme le pronom neutre Y, employé comme complément direct, j'y ai fait, l'inversion des pronoms personnels après un impératif, donne-moi-le au lieu de donne-le-moi, ce qui nous vient du patois, hein, puisque Pierre Duplay écrivait déjà en 1896 à l'inverse du français, quand un verbe à l'impératif a deux pronoms pour complément, l'un direct, l'autre indirect, c'est ce dernier qui s'énonce en premier. Exemple en patois, « by may lou ». Et puis aussi la formation d'adjectifs à partir de participes passés. Il est trempe de chaud, ses joussons enflent, la reloge est arrête. Donc qu'en est-il des résultats du travail de Judith? Les observations révèlent une situation un peu plus nuancé que ce qu'elle attendait. Très surprenant, 54% des enseignants utilisent au moins une fois un régionalisme en cours au cours des séances observées. Un élève sur 6 emploie spontanément un mot ou une expression gaga lors des entretiens. Et dans les classes, un régionalisme apparaît dans 20% des situations que Judith observe. Il semblerait donc que le gaga soit encore bien présent dans nos écoles. Mais quels sont les mots, les expressions, les tournures qui ressortent le plus, ou plutôt qui ressortent le mieux? Un peu de patience les amis, la suite c'est pour bientôt.
Ici,
actu local, musique et bonne humeur. Ici.
Je t'aime bien Lily, pour tous les livres que tu lis. Je t'aime bien Lily, je t'aime bien au lit, je t'aime bien au lit aussi. Tu es le oui du mot ma nuit, du mot ma vie. ma nuit, du mot ma vie aussi. Je t'aime bien Lily, pour toutes les bêtises que tu dis. Je t'aime bien Lily, quand tu m'ennuies aussi. Tu es le oui, du mot ma nuit, du mot ma vie. Tu es le oui, du mot ma nuit, du mot ma vie aussi. Je t'aime bien Lily, quand tu rentres trop tard et que tu me souris. Lily, c'est pas la pluie, c'est lui. Je t'aime bien Lily, bien qu'on n'aura jamais les mêmes jeudis. Lily, Lily, Lily. Je t'aime bien Lily, mais j'ai du mal à vivre cette vie. Entre le silence et l'oubli, j'attends mon paradis. T'es pas le oui de mon logis, de mon abri. Tu es le oui du mot ami, du mot ennemi aussi. Je t'aime bien Lily, quand tu rentres trop tard et que tu me souris. Lily, c'est pas la pluie, c'est lui. Je t'aime bien Lily, bien que je sois pas le seul à qui tu dises oui. Lily, Lily, Lily. Je t'aime bien Lily, quand on est tous les deux la nuit. Je t'aime bien Lily, je t'aime bien au lit, je t'aime bien au lit aussi. Tu es le oui du mot désir, du mot envie. Et c'est pour ça que je reste là, que je reste ici. Lily.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Loire-Océan.
On part en Vendée ce matin à Bouin, tout près de Beauvoir-sur-Mer et Noirmoutier. Voici François, conteur d'histoire depuis 1987. Il transforme chaque balade en un voyage dans l'imaginaire. Il fait naître des histoires qui touchent petits et grands, mêlant tradition locale et émotion. Une passion présente depuis très longtemps pour François.
Ça vient de très loin, ça vient de ma grand-mère qui racontait des histoires à mon papa et de mon papa qui nous racontait des histoires quand on était petit, notamment une histoire que ma grand-mère lui racontait. L'histoire de Jean sans peur. C'est l'histoire d'un petit garçon qui part de chez lui et qui rencontre le diable.
Oh
ouais. Et c'est la première histoire que j'ai racontée devant un public. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que j'avais un don pour le conte.
Ça se sent le fait d'avoir ce don pour raconter les histoires, c'est parce que c'est pas donné à tout le monde.
Alors pour moi, c'est donné à tout le monde, mais c'est une passion et puis c'est un plaisir d'emmener des gens juste avec l'imaginaire, avec très peu de décors et juste avec les mots. Alors moi, j'adore les mots. J'attache énormément d'importance aux mots, à leur sens. Et quand j'invente une histoire, eh ben je choisis mes mots avec beaucoup de rigueur.
On est d'accord, c'est votre métier, François.
Alors c'est mon métier. C'est devenu mon métier un peu après. Donc moi j'ai eu un parcours où j'ai vécu une vingtaine d'années à la montagne, du côté de Bourg-Saint-Maurice, et j'étais gardien de refuge. Ben je racontais des histoires au refuge aux gens. Le soir, à la veillée, et ils remontaient au refuge pour que je raconte mes histoires de colporteur d'histoires.
Quelle émotion justement vous recherchez à travers vos histoires, vous ?
Le rire, la joie. Et aussi un des grands messages, c'est dire qu'on peut toujours se relever. Que dans chaque épreuve de la vie, on peut trouver quelque chose qui va nous faire rebondir.
Alors elle est où la part de vérité là-dedans ?
Alors dans le conte, il y a toujours de la vérité. D'abord, la première vérité, c'est le vocabulaire.
Ouais.
L'autre vérité, c'est que, effectivement, dans la vie, on peut toujours s'en sortir. S'émerveiller de quelque chose, même quand on pense que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Qu'il y ait plein de vie, même dans un lieu qui est quand même assez rigoureux.
Comment la Vendée vous inspire, vous, pour vos histoires?
La Vendée, c'est mes origines, c'est ma famille, c'est mes oncles et tantes chez qui je suis allé beaucoup en vacances, c'est les bisous de mes grands-mères. Quand, après 20 ans en Savoie, je suis revenu en Vendée, je suis allé boire un café sur la route, et là, j'ai entendu l'accent. Un accent vendéen qui est très maternel, qui est très affectueux, qui est très affectif.
Comment vous imaginez votre avenir, tout simplement, François ?
56 ans, j'ai encore une trentaine d'années à travailler.
Ouais, vous êtes un jeune homme.
Voilà. Je pense qu'à 90 ans, j'aurai la barbe encore un peu plus blanche, les cheveux tout blancs, mais je pense que je continuerai à faire des balades comptées au port du Bec, au port des Champs, à la Couplace, etc. Parce que c'est pas un métier facile où on gagne des millions, ça c'est un choix. Et par contre, c'est toujours le bonheur de faire rêver les gens, de les faire rire, énormément rire.
François, c'est un personnage attachant et généreux. Avec lui, une simple promenade devient moment hors du temps.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Champagne-Ardenne.
Victor Hugo est venu à Reims à plusieurs reprises, et notamment lors du sacre de Charles X, le 29 mai 1825. Charles X qui a succédé à son frère, Louis XVIII, quelques mois plus tôt, en octobre 1824. Depuis 10 ans, en fait, les Bourbons retrouvaient le trône après la chute de Napoléon et l'entrée dans la période dite de la Restauration. Louis XVIII n'avait pas souhaité renouer avec la tradition du sacre. La Révolution restait présente dans les esprits, puis sa santé fragile rendait une longue cérémonie difficile pour lui. Charles X, lui, choisit l'option inverse. Le souverain entend affirmer la légitimité monarchique par un retour aux rites ancestraux. La cathédrale Notre-Dame de Reims accueille la cérémonie et c'est une véritable parade en ville. Un cortège royal avec bannières, soldats, les dignitaires du royaume et les membres de la famille royale qui composent donc cette procession spectaculaire. Parmi les invités figure un jeune écrivain de 23 ans, Victor Hugo. Et il est invité officiellement à cet événement car il ne cache pas son penchant royaliste. Mais il n'est pas dupe. Hein. S'il est convié au sacre royal, c'est pour en écrire tout le bien qu'il en pense. « Le roi a demandé si j'étais ici. Je suis effrayé de ce qu'ils attendent de moi », précise-t-il à sa femme Adèle dans une lettre. Il en profite tout de même pour faire un peu de tourisme. Et comme tout écrivain qui se respecte, il observe et prend des notes. Il passe notamment rue de Venise et tombe sur une jeune femme dans une cour de la rue Folpen. C'est une gitane qui danse. Il poursuit sa balade dans le quartier Saint-Remy et s'arrête devant la basilique pour en faire la découverte. Il croise un petit homme d'une trentaine d'années. Il est bossu. C'est en fait le sonneur de cloche de la basilique. Tout cela inspire Victor Hugo pour l'écriture des personnages principaux de son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831. Le bossu sera Quasimodo et la gitane devient bohémienne sous le nom d'Esmeralda. Les héros de Notre-Dame de Paris, imaginés à Reims, c'est l'un des trésors de Champagne-Ardenne.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici, pays d'Auvergne.
Louis Thomas est notre invité et il a choisi l'Auvergne depuis un an déjà. Louis Thomas, l'Auvergne vous a ouvert les bras et vous êtes donc chez nous dans cette si belle région, on peut le dire. Même si la douceur du Tarn n'est pas là, la région vous plaît ?
La région me plaît, ses saveurs aussi. Avant de venir à Clermont-Ferrand, j'avais commencé par m'acheter tous les fromages d'Auvergne pour...
pour être bien sûr de votre choix.
Ça faisait rire ma compagne. Je regardais les deux racines et des ailes sur l'Auvergne. J'essayais de m'imprégner avant d'arriver et je ne suis pas déçu.
Vous avez grandi dans le Tarn, dans une maison que vous appelez votre maison du bonheur et un peu auberge espagnole. Pour quelle raison ?
Pour plusieurs raisons. Enfin, déjà le terme. Une maison, on a reçu toujours beaucoup, beaucoup de monde, des amis, déjà enfants, famille, amis de mes parents, avec des enfants qui avaient le même âge que nous, à tous jouer ensemble, construire des cabanes. Non, c'était vraiment une belle époque. Et puis ensuite, moi, j'ai pris le relais au lycée pour organiser mes premières soirées aux grandes dames de mes parents.
Ah oui. Ah là, ça plaisait moyennement, si je comprends bien. Peut-être trop d'amis et trop souvent à la maison.
Oui, mais ça va, je ne casse rien. Je ne casse rien ou peu de choses ou des choses trop petites pour que mes parents le remarquent.
Un petit malin, un petit cachotier.
Oui, voilà.
Donc, vous avez évoqué les spécialités auvergnates, en tout cas ce beau plateau de fromage que nous avons la chance d'avoir. Qu'est-ce que vous aimez manger donc ici? Qu'est-ce que vous avez découvert de notre région Auvergne?
Alors moi, je connaissais le Roquefort parce qu'une partie de ma famille est avéronnaise. Et je dois vous avouer que je préfère le bleu d'Auvergne. Ouais, c'est beaucoup plus crémeux et je le préfère tout simplement. Ensuite, je vais régulièrement à la Régalade, lieu emblématique de Clermont-Ferrand. Effectivement, son plateau de fromage est incroyable. Entre la Fondambert et la Comtesse de Vichy, bon, c'est un peu plus haut, mais fromage et sa carte des vins aussi est exceptionnelle.
Mais vous ne vous nourrissez pas de vin et de fromage. Quel autre plat cuisiné est-ce que vous aimez?
Alors moi, c'est plutôt l'Italie, car j'ai beaucoup voyagé, déjà dès le lycée, et j'y vais tous les ans. Tout ce qui va être gastronomie, je suis plutôt parti sur l'Italie que sur les plats français.
On le disait, hein, nous sommes dans votre showroom. Vous pouvez nous décrire un peu tout ce qu'on aperçoit, en tout cas les pièces maîtresses de ce showroom?
Tout ce que nous avons autour de nous provient de collectionneurs amateurs du 18e siècle, que ce soit des meubles ou des peintures. C'est vraiment les grands siècles. On a vraiment une expression des grands siècles français ici. Des commodes, des secrétaires, des fauteuils Louis XV, des portraits royaux. Des tapisseries, c'est vraiment une expression classique. D'ailleurs, c'est le nom de cette vente, Intérieur Classique, qui pourra, je l'espère, satisfaire les envies de Clermontois pour meubler leur intérieur.
Ici.
Dans mes grands bras, je l'espère.
le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ICI Berry.
Bonjour Johan.
Bonjour Manu.
Merci de nous accueillir dans cette boutique au garage à Issoudun avec une céramique bretonne. Exactement. Que l'on peut trouver. On n'est pas à l'abri de trouver ça sur une brocante.
Alors on n'est pas à l'abri. En revanche, là on est sur une céramique de très belle qualité. Et tu sais que moi je suis un amateur de la céramique française des années 50, en tout cas du milieu du 20e. On ne présente plus, évidemment, les Caprons, les Rouellans, tous ces grands céramistes qui ont fait des pièces magnifiques, qui font aujourd'hui des très gros prix. Mais aujourd'hui, dans une gamme de prix beaucoup plus inférieure, on peut se faire plaisir avec, par exemple, un grand plat de service comme ça. Tu vois, cette couleur verte, elle est incroyable. Et figure-toi, mon cher Manu, que cette pièce vient de Bretagne. On pourrait dire qu'elle vient de Valoris, dans c'est le vrai. Sud de la France, dans les années 50.
On pourrait se tromper.
Brocante, vide-grenier, vide-maison, sur la piste du Chineur.
On est à Quimper, dans les manufactures de céramique de Quimper, hein, qui existent depuis la nuit des temps. Et là, on est sur une marque qui s'appelait Keraluc, qui a édité de nombreuses pièces de service, de vaisselle, des pièces qu'on peut utiliser encore aujourd'hui, évidemment, et qui amène une touche de déco un peu fantasy, un peu complètement céramique des années 50. Elle a une forme complètement atypique et surtout un travail de décor qui est vraiment de qualité superbe. On est dans des couleurs improbables. Tu as vu,
elle est élégante, elle est magnifique, elle est resplendissante.
Elle est verte, elle a trois ou quatre teintes de vert différents. C'est vrai qu'on se croirait à Valoris dans le sud en 1950, mais on est bien en Bretagne et ce sont des pièces aujourd'hui qui sont recherchées par les collectionneurs de céramique.
Du coup, le prix ?
Bon, ça vaut une centaine d'euros, ouais. parce qu'il y a une grosse production. Donc, beaucoup de pièces aujourd'hui, on peut peut-être, si on a de la chance, en dénicher une sur une brocante. On reste raisonnable et on se fait plaisir. C'est de la déco très colorée sur une grande table dans la cuisine, c'est super.
C'est validé, merci Johan.
Merci à toi Manu.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ICI Héro.
On doit faire un reportage avec les R3, Moggio Carnon, mais je ne sais pas sur quel terrain ils sont.
Ils vont venir là ou là-bas ?
Là, le terrain ici, il est allumé
24 sur 24.
Virginie et vous.
Il y a quelques jours, le monde du football héraultais a vécu un moment historique. Quatre clubs étaient en effet en 7e tour de la Coupe de France.
Le numéro que vous demandez n'est pas attribué.
Point P foot pour ceux qui n'y voient pas très clair. En gros, on part des professionnels de la Ligue 1, 2, 3. Ensuite, les semi-pros avec les nationales 1, 2, 3. Et les amateurs avec les régionales et départementales 1, 2, 3. La Coupe de France a cette particularité qui permet aux équipes de toutes les divisions de s'inscrire et de se rencontrer entre elles. Avoir quatre clubs à ce niveau de la compétition est donc dingue. Quelques jours avant leur élimination, je suis allée à l'entraînement des R3 de l'Union sportive Moggio Carnon. Rendez-vous à la plaine des sports de Moggio, un mercredi soir, 19h. Il fait déjà bien nuit. Tous les terrains sont allumés, ça joue dans tous les sens. Arrivé sur le bord du terrain avec Mathis, le technicien du son, on tombe sur Mehdi, le directeur sportif du club. Posté juste à la sortie du vestiaire, il voit tous les joueurs arriver.
Bonsoir.
Bonsoir,
vous allez bien ?
Bonsoir, aussi, merci.
Je
suis super bien, le jeune, il dispose de bonsoir.
Ah, moi, il le sort.
Ah, wesh.
Ce que je leur dis souvent, c'est il y a des gens qui préparent la buvette, qui préparent celui. Quand vous finissez le match, première chose que vous faites, vous allez leur dire bonjour, vous mangez un morceau, vous dites bonjour à tout le monde. Le respect, c'est...
Tout en regardant les joueurs faire des jongles et des passes en attendant le coach, je demande à Mehdi depuis combien de temps il est au club.
Moi, je suis resté pendant 30 ans à Van Dagen.
Ah.
Après, je suis parti dans un gros club à Palavas, R1, tout ça, là. J'ai fait 2 ans, puis après, ceux qui sont venus me chercher ici. Et la politique d'ici m'a pas plu, je suis reparti. Après, ils sont revenus me rechercher.
La politique a changé ou quoi ?
Ouais.
Ah oui, d'accord. Et c'est quoi le boulot d'un directeur sportif ?
Toute la coordination d'éducateurs, des joueurs, quand il y a un problème, au lieu de se prendre le chou avec l'entraîneur, de venir me rencontrer, discuter,
d'accord.
Faire les planifications des matchs à l'extérieur quand on se déplace, tout gérer, tout.
Ah oui, c'est un sacré boulot.
Ah oui.
Et ça, c'est du bénévolat ?
On me paye mes frais d'essence.
Ouais, d'accord. Oui,
mais après, je j'attends pas ça pour vivre.
Oui, d'accord.
Moi j'ai un boulot. Ouais.
Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis responsable de maintenance dans une grosse société, Van Dagen.
Et donc le foot, ça a toujours été votre truc ?
Ah, toujours, toujours.
Vous avez toujours fait deux métiers tout le temps ?
Ah oui, moi le foot c'était... J'ai joué, j'ai entraîné.
Il n'y a jamais eu de truc de quand je serai grand, je serai Zidane ?
Les Zidane, il y en a, on croit tout le monde des Zidane, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Après, il y a des regrets, bien sûr, parce que nous, quand à notre époque, on avait les copains, et quand tu avais tes copains, tu restais avec tes copains, j'aurais pu partir ailleurs, hein. Je dis la vérité, j'aurais pu partir ailleurs. Mais quand les copains du village et tout, bon, après, c'est des choix, quoi, on fait de la vie. Hein, bon.
Et les copains, ils sont toujours là?
Oui, je les vois toujours.
Ah bah alors ça valait la peine peut-être. Non,
mon collègue, c'est cool, ça plaît.
On ne sait pas si Mehdi aurait été un grand joueur pro, mais comme directeur sportif du club amateur de Mauguio-Carnon, il fait l'unanimité.
Bonsoir.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Vaucluse.
Nous sommes en mai 1970, le 17 précisément, un dimanche ensoleillé et non un lundi au soleil. Et Claude François roule à vive allure, pressé de rejoindre Nîmes. Il s'écoute un live d'Elvis Presley.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat.
Dans la voiture, il y a 8 haut-parleurs tout autour, donc vraiment, j'étais entouré par le son, j'adore ça.
Quand soudain, son pneu éclate à hauteur de baie d'Aride. À l'époque, le chanteur raconte son accident dans une interview fascinante tirée de l'émission de radio Bande à part que Lina a archivée.
Quand la roue a explosé, l'arrière s'est présenté vers l'avant et la gauche de la voiture se soulevait pour culbuter les tonneaux. Je me suis donc retrouvé de face à l'autoroute, donc de nouveau, et là j'ai re-ralenti. Dès que c'est représenté de nouveau en tonneau, j'ai re-accéléré, ainsi de suite, jusqu'à peut-être 100-110 à l'heure. Alors mes bras étaient mous pour conduire la voiture, et elle s'est arrêtée net, le retour m'a projeté la tête dans le volant.
Sa voiture traverse les quatre voies de l'autoroute et finit sa course dans un fossé de l'autre côté de l'autoroute A7. Conscient mais sonné, l'artiste est un miraculé. Nous sommes alors 8 ans avant l'épisode de la baignoire fatale. Il n'aura qu'un nez cassé, nécessitant par la suite une rhinoplastie.
C'est pas le cartilage qui s'est cassé, mais l'os entre les deux yeux. Alors là, j'ai donné un coup de poing dans le miroir, j'ai donné des coups de poing partout, j'ai piqué ma crise de... J'ai pas de chance.
Claude François sortira 2 ans plus tard, le lundi au soleil.
Musique et bonne humeur. Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici mène.
L'atelier Fernand Robert, le temple du chapeau en Sarthe. Un atelier d'excellence qui fournit les plus grandes marques de luxe. Mais comment ça fonctionne? Quelle machine et quel savoir-faire? Je vais vous emmener dans les coulisses d'un atelier de fabrication de chapeaux. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous les ateliers Fernand Robert. Direction le 36 rue de Carnac à Coulaines. J'arrive sur un petit parking et j'ouvre les portes de l'atelier. Une femme m'accueille.
Bonjour, bienvenue aux ateliers Fernand Robert.
C'est Axelle Jarosset, la directrice des lieux. Elle est en charge de l'atelier depuis 5 ans, mais c'est une histoire de plus de 120 ans qu'elle a pour mission d'entretenir et de continuer de développer.
Oui, absolument. Vous êtes ici dans un atelier de modiste où on fabrique des chapeaux grâce à des machines qui sont elles-mêmes centenaires, avec lesquels on travaille le feutre, la paille différents matériaux naturels pour notre clientèle locale et internationale. On a même travaillé pour le roi du Maroc, vous voyez, donc c'est la princesse de Thaïlande.
Et bien souvent, c'est surtout pour les cérémonies de mariage que l'atelier travaille avec des clients de Paris, d'Angers, de Tours qui viennent directement sur place pour ça. Mais autrement, l'atelier s'active aussi dans des domaines bien variés, cinéma, palace, spectacle, mode de luxe ou encore cirque. Tout est possible.
On a ici 350 moules de formes différentes, dans des tailles différentes.
Et avec une variété de matières, feutre ou paille, de toutes les couleurs et toutes les qualités.
Tellement de sortes de chapeaux que tout le monde peut y trouver son compte.
Des chapeaux qui passent d'abord tous par la main et les machines de Xavier David, le chapelier. Ces fameuses machines de 1905 qu'il a appris à dompter sur le terrain. Des belles machines, encore joliment entretenues et peintes de verte, avec un système mécanique qui est encore aujourd'hui inégalé. Le moule chauffe par en haut et par en bas, au gaz. On place le feutre au milieu et c'est parti.
Et par un jeu de pédale, je peux bloquer le feu.
Après cette étape du moulage, Xavier taille et nettoie avant de passer le relais à ses collègues de la couture, à la main et à la machine. La dernière étape, c'est Mirella qui s'en charge. Elle gère toutes les finitions.
Donc je commence avec préparation d'extérieur. Le nœud, le galon, l'intérieur, toute la finition, c'est moi. Je fais tout, et même le dressage.
Une rigueur et un savoir-faire reconnus par le cinéma, puisqu'on peut voir sur grand écran nos chapeaux sartois.
C'est vraiment une fierté pour nous, comme quand on a vu dans le film Astérix, par exemple, donc pour les petits chapeaux chinois. Ils sortent de l'atelier, donc c'est vrai qu'on est tous allés au cinéma pour aller voir le film.
Alors si le monde du chapeau vous intéresse et que vous voulez profiter de la qualité à prix réduit, sachez que c'est possible.
Oui, tout à fait. On ouvre les portes de notre atelier du lundi au jeudi pour la clientèle local, donc les gens qui veulent venir acheter un chapeau, ou ça peut être aussi un béret, un bonnet.
Ou chapeau de mariage, vous pouvez en tout cas soit venir sur place, ou faire des demandes particulières si vous le souhaitez également par téléphone. Dans tous les cas, les ateliers Fernand Robert ont encore de beaux jours devant eux, et sans conteste, c'est un savoir-faire testé et approuvé par ICI MEN.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ICI Cotentin.
Ouais, ça c'est un truc que je fais souvent. Alors c'est marrant parce que je le fais un tout petit peu moins parce que je vieillis. C'est des bateaux très violents, les bateaux de course. C'est les Imoca, les bateaux du Vendée Globe. C'est des bateaux qui tapent vraiment très 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 fort. Je me suis cassé le dos une fois. J'ai cassé mes caméras plein de fois. Je suis reparti l'année dernière sur Tara, sur la goélette Tara. Donc là c'est plus cool, c'est plus smooth.
C'était improbable aussi de croiser tous les gens que t'as pu croiser avec Tara.
Ouais, je fais pas une liste, mais oui, ça va de Thomas Pesquet. Je sais même plus. Je pourrais pas te dire, mais le dernier film sur lequel j'ai bossé, il sort bientôt d'ailleurs. Il s'appelle Mata. C'était avec Mélanie Laurent.
Et tu faisais quoi sur ce film?
Là, c'était de la photographie de plateau et making of. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que un tournage, c'est compliqué, c'est éprouvant, c'est 6 semaines de travail intense. Et quand on est à ce poste, en fait, on est mobile, on fait ce qu'on veut, on se balade et ça rejoint mon amour du documentaire.
On va revenir sur le fait de naviguer parce que tu as participé à différentes courses, tu as navigué avec des grands skippers, des marins pêcheurs, des sauveteurs de la SNSM. Comment on filme en mer?
Sur les bateaux de pêche et sur des gros bateaux, c'est très facile. Et sur les IMOCA ou les ultimes, c'est la guerre. C'est vraiment, on est à genoux, on est malade, on se cogne partout. Et là, j'avais fait la face nette avec Jérémy Bayou et Franck Camas sur un IMOCA. On utilise 1% des rushs parce que le reste ça bouge et c'est pas cadré quoi.
Le gars qui est dans le chaos total quoi.
Ouais ouais, puis les bateaux sont fermés, ils vont vite, ils sautent, ils volent, enfin tout ce qu'on veut. Et par contre il y a un truc qui est très très chouette et très formateur là-dedans, c'est que quand on revient à terre, et ben tout paraît facile. On appuie sur un bouton, ça fait un café, on a des toilettes normales et quand on cadre, ben, c'est cadré. Donc c'est une très très bonne école, c'est une sorte de mini service militaire express.
Comment est-ce que tu pourrais la décrire justement la mer, toi? Ça t'a appris des choses sur elle de la filmer?
Et ben en fait c'est même pas que ça m'a appris des choses, c'est que moi je suis né à Cherbourg, j'ai grandi à l'école de voile de Cherbourg, j'ai fait l'optimiste du 420 en compétition. J'ai même été champion de basse Normandie en 93 d'optimiste. J'ai toujours fait du bateau. Quand je suis allé habiter à Paris, quand j'étais prof, j'ai acheté une péniche parce qu'il me fallait de l'eau autour de moi. J'ai tout fait pour revenir à Cherbourg et ça c'est un attachement qui est vraiment profond. Et moi le coup d'entend, on parle de presqu'île, mais je le vois comme une île en fait. Et j'ai toujours été passionné par les îles. J'avais un bateau dans le port que j'ai vendu il y a pas longtemps parce que j'avais plus le temps d'en faire et que je naviguais beaucoup trop sur les autres bateaux. Quand je rentrais, j'avais pas envie de faire du bateau. C'est toujours un truc d'aller vers Origny, Guernesey, Cerque. Il y a un petit côté passionnant, là, comme les Robinson ou la série Lost, ou ce genre de choses. Et donc, moi, le Cotentin, je le vois vraiment comme une île, pas comme une presqu'île, un lieu de retraite. C'est pour ça que j'ai jamais fait le choix d'habiter à Paris. Ce serait plus facile, hein, pour plein de choses. Mais je préfère vivre ici et prendre le train pour aller travailler que l'inverse, que travailler à Paris et prendre le train pour aller me reposer au bord de la mer. En fait, quand on a grandi ici, on est né ici, c'est pas quelque chose qui fait partie du décor, c'est le décor.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Besançon. Ici Besançon.
Avec Cyril Seguin.
Ici Matin.
Arnaud Fromage est avec nous chaque matin, c'est l'heure de la nécessaire minute comtoise. Mon cher Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Du côté des radars, il y a des petites surprises, on donne vraiment des drôles de noms aux choses, parfois, chez nous en Franche-Comté.
Oui, et en voici un nouvel exemple. Alors, petite mise en situation, vous êtes en voiture, vous venez de Belfort et vous roulez en direction de la chapelle sous Rougemont. Bref, vous êtes sur la départementale 83, vous passez de nez avant d'arriver à Rope. Là, vous passez devant la mairie, sur l'avenue Charles de Gaulle, il y a Céline Coiffure, mais vous continuez. La petite patte d'oie à la Vermenoncourt, vous restez sur la route principale et vous avancez encore un petit peu. Il y a les jolies maisons typiques là sur le côté et c'est là, dans le virage, qu'il faut freiner tout simplement parce qu'il y a un radar.
Bon, bah, pas mal la petite balade là autour de Belfort, je vois pas vraiment. Vous voulez en venir, Arnaud?
Eh bien, exactement à cet endroit précis, là, sous le radar, en face de la boîte aux lettres. Parce que ce n'est pas n'importe quel radar. C'est celui qui est surnommé le radar Johnny Hallyday. Mais alors, pourquoi, allez-vous me demander, maintenant que j'ai réussi à capter votre attention?
Eh bien oui, pourquoi le radar de Johnny Hallyday, Arnaud? Oui.
Pour comprendre, il faut remonter à février 1970. L'idole des jeunes a donné la veille un concert à Strasbourg et doit se rendre à Besançon. 3000 personnes l'y attendent et il est 18h passé. Dans la DS Palace Citroën, qui roule à fond parce que, bah, années 70, il y a donc Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, mais aussi Mickey Jones, le guitariste de Johnny, Jean Ponce, son manager, et Sacha Rull, son secrétaire. On est en février, il fait nuit, il fait froid, il y a du verglas et ça roule vite, bref, Johnny perd le contrôle de sa voiture. Il glisse et se retrouve dans le fossé. Alors il parvient à reprendre le contrôle de son véhicule, parce que, ne l'oublions pas, Johnny Hallyday est un pilote, mais malheureusement, il y a un bloc de béton qui bloque le fossé et la voiture finit par s'y écraser. À bord, Johnny et son guitariste n'ont rien, mais son secrétaire et son manager sont blessés. Sylvie Vartan, elle, a carrément traversé le pare-brise, elle a le visage en sang. En 1970, la ceinture de sécurité est censée être obligatoire, mais dans les faits, personne ne la met vraiment. Les voisins viennent au secours des blessés, alors au départ ils avouent ne pas vraiment avoir reconnu Johnny et Sylvie Vartan parce qu'ils sont sous le choc, et les blessés sont conduits à l'hôpital de Belfort. Johnny s'empare du téléphone d'un riverain pour annoncer qu'il n'y aura pas de concert à Besançon ce soir-là. Sylvie Vartan, elle, s'exile quelques mois à New York dans une clinique de chirurgie esthétique où elle subira des dizaines d'opérations de reconstruction pour effacer les traces de l'accident. Alors voilà pour la petite histoire. Et c'est donc dans ce même virage, toujours à la sortie de Rope et toujours aussi dangereux, qu'a été installé en 2019 un radar, le radar Johnny Hallyday, pour nous rappeler que, star ou pas, il ne faudrait pas oublier de...
Le radar
par Johnny Hallyday. Voilà, on sait désormais où il est grâce à vous, Arnaud Fromage, pour la nécessaire minute comptoise. Vous menez les enquêtes dans tous les sens et vous nous faites revivre avec un superbe podcast La vie incroyable de Paul-Émile Victor, un jurassien qui, pour sa première expérience et sa première expédition, est parti au Groenland. On a entendu le premier épisode jeudi, à partir de 10h. Et le numéro 2 est déjà disponible en ce moment sur l'application ICI. Vous allez véritablement découvrir ce qu'a enduré l'équipe autour de Paul-Émile Victor. Une équipée qui a été véritablement sans danger, mais ô combien importante pour l'avancée de la science. Un podcast passionnant avec vous, mon cher Arnaud Fromage. Je vous dis à demain.
À demain.
Ici.
Actu locale, musique et bonne humeur. Ici. Oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ICI Poitou.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on m'a dit de venir vous voir pour découvrir un peu votre métier. Vous êtes vidéaste, c'est ça ?
C'est exactement ça. Je suis vidéaste à Poitiers, aux alentours, et France et au-delà.
Alors, il y a les caméras. classique, j'ai envie de dire celle que tout le monde voit, tout le monde visualise, imagine. Mais aujourd'hui, ce qui marche aussi, c'est les drones.
Exactement, parce qu'effectivement, j'ai la chance d'être aussi télépilote de drone professionnel. Et aujourd'hui, on va pouvoir peut-être regarder quelque chose, ça peut être chouette. Donc, effectivement.
C'est compliqué à contrôler, à piloter un drone.
Alors, aujourd'hui, avec toutes les aides qu'on a, oui et non. Dans la mesure où, quand on fait ça, moi je fais ça très souvent, donc non, ça va. Mais quand on débute, c'est assez intuitif parce que bah, y a beaucoup d'aides au pilotage. Et effectivement, quand on est dans la bonne réglementation et qu'on vole bien, bah non, en fait, c'est assez facile, c'est des joysticks. Je sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, c'est un peu comme un jeu vidéo, donc c'est vraiment sympa quoi.
Si je pose la question, c'est parce que du coup je vais vouloir essayer forcément. On est dans le jardin et on peut pas voler trop, il y a des réglementations, mais.
Exactement, mais là on est vraiment autorisé à, on est autorisé à voler parce que moi je suis dans une zone complètement ouverte, donc on est ce qu'on appelle en catégorie ouverte, et donc il n'y a aucun souci ici pour voler, tout va bien.
Trop bien, eh ben, allez, on y va.
On va le faire décoller, donc il est en train de récupérer notre signal GPS pour pouvoir voler correctement. Hop là. C'est très facile. Pour vous montrer, on a en fait deux joysticks. On a un joystick qui va gérer l'altitude, donc au bas. Et là, le même joystick qui va faire le lacet, donc droite et gauche. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle le tangage, donc pour aller vers l'avant, pour aller vers l'arrière et pour aller sur les côtés. Voilà.
C'est l'image est parfaitement fixe, c'est incroyable.
Et effectivement, l'image est très fixe parce que là, on est sur un drone gimbal, donc il est lui stabilisé. En fait, quand on se met sur, quand on se met ici, je sais pas si vous voyez, mais là, quand on va à droite et à gauche, et ben là, la caméra en elle-même, en fait, elle bouge pas.
Mais alors, ça peut voler combien de temps un drone comme celui-là ? Alors,
ça dépend des versions. On peut aller sur du 40 minutes, 45 minutes par batterie. C'est quand même pas mal parce que nous, effectivement, quand on a des plans, alors la plupart les plans sont réfléchis en amont, donc on sait exactement ce qu'on veut, mais il faut quand même tester les cadrages. Donc ça nous permet vraiment d'être en l'air correctement, et une fois qu'on lance notre enregistrement, on a déjà tout ce qu'on veut et on a encore de la possibilité.
Est-ce que je peux essayer ?
Bien sûr,
avec allez, tac, ça c'est pour.
Ouais, ça c'est pour l'altitude, donc haut.
Ok. Et bas. Et est-ce que vous avez le contrôle de la caméra ?
Alors oui, effectivement, vous avez le contrôle de la caméra avec la petite molette qui est ici. En fait, si vous baissez en haut et en bas, et bien là, du coup, vous pouvez directement cadrer ce que vous voulez.
Donc, là, c'est un joujou à combien ça ?
Alors, celui-là, c'est un petit joujou, on va dire. C'est un joujou à 1600, 1700 euros. Mais j'ai une autre grosse machine qui aujourd'hui est adaptée pour la réglementation. Et là, on est plus aux abords de 5000 euros, 6000 euros.
Bon, s'il n'y avait pas la réglementation, il pourrait monter à combien ?
Alors, s'il n'y avait pas la réglementation, on imagine qu'on pourrait aller jusqu'à du 500 mètres d'altitude, 600 mètres.
Bon, pas assez encore pour atteindre la station spatiale.
Alors, non, pas assez pour atteindre la station spatiale. Et heureusement, parce que vu la vitesse qui passe, ça serait compliqué pour eux. Pas encore, mais peut-être, c'est ça l'innovation dont vous parliez. Ça se trouve, ça sera pour aller dans la station spatiale en drone.
Voilà ce que je vais créer. C'est ça l'idée.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici, Pays d'Auvergne.
Dans la rue du Port, il y a la grotte du Puy de Dôme. Et oh, petit jeu de mots, allons tailler la bavette 2 minutes avec un tailleur de pierres précieuses.
Poussez ! Poussez !
Ça y est, j'ai réussi. Un peu archaïque cette porte. Enfin,
mais
il y arrive.
Elle surprend tellement de gens qu'elle me
rassure vis-à-vis de certains voleurs, par exemple.
Ah ben déjà, pour vous voler, vous, faut trouver comment marche la porte.
Exactement.
Et j'imagine que quand vous voyez quelqu'un qui ressemblerait à un voleur, vous lui dites pas pousser.
Ben, je me débrouille pour le dissuader.
Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ?
Ça, c'est ce qu'utilisent les CRS, c'est le flashball.
Ah, c'est un flashball ? Je suis venu tailler le bout de gras avec vous, mais je pensais pas être accueilli par un flashball.
Moi, c'est pas tellement le bout de gras que je taille, c'est surtout mes petits cailloux.
Qu'est-ce que vous taillez comme cailloux ?
Tout. Toutes les pierres, à partir du moment où elles ont un intérêt bijoutier. Alors, ça peut être des pierres sans aucune valeur. Je travaille notamment pour une dame qui va à la pêche dans l'Allier. Enfin, dans l'Allier, pas le département.
Dans la rivière.
Dans la rivière.
Et qu'est-ce qu'elle pêche ?
Eh ben, elle pêche de temps en temps des galets dont la couleur lui plaît. Et elle me fait faire du polissage sur des galets qui n'ont aucune valeur, mais qui lui plaisent, par exemple. Et puis, part du principe que je suis l'ébéniste du caillou. On travaille dans des matières nobles, le bois c'est noble, la pierre c'est noble, voilà. Et puis après, il y a le respect des styles, il y a le respect du goût de ces dames qui veulent telle couleur dans telle matière, mais dans telle forme et telle dimension.
Enfin, elles sont pas un peu pénibles ?
Si, beaucoup. Mais on essaie de les satisfaire quand même. J'ai une jeune fille qui m'a amené du corail de Corse et elle m'a demandé de sculpter le zizi de son copain dans le corail. Ça surprend quand, quand on vous fait la demande.
Ben ça veut dire que dans votre vie, vous aurez fait des zizi.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Berry.
Gros ce vin là, il est ben trop bon pour la modurer.
Berrichon dans le texte.
À modurer le vin, ça veut dire y rajouter de l'eau. Je vous avoue que je connaissais pas ce mot là, puis que je l'ai trouvé dans mes livres. Je vole souffler au grand maître des chevaliers du PSU à Mentou. Vu que là-bas, les gars ils s'engageront à ne jamais couper d'eau un vin de qualité. Ça veut dire, les gars, qu'il faut jamais à modurer du vin, à moins qu'il soit ch'ti. Par chez nous, les ch'ti vins, il y en a plus. Oh, je dis pas que dans le temps, il y avait pas Chuck Pichette qui méritait d'être à modurer. Mais au jour d'aujourd'hui, plus besoin de s'accrocher au bord de la table pour avaler votre canon de Sauvignon. Quand même, chez les marchands, on trouve des vins qui venons, on sait pas ben de l'avoue. Des gros rouges que tachons les nappes et le fond des verres. Et que méritons ben d'être à modurer. Blascandi, Georges Blanchard. Si par hasard, la souée vous amène par chez nous, jabio dégraissé, ou rentrez jamais au ch'ti domaine, beuvez plutôt lieu du foussé. Le bourgeois, il vous recevrait avec jouet, vu qu'il est plus barlot que méchant. Mais, je vous préviens, il vous ferait bouer du vin de marchand. Oh, si le vieux Noé, sur tant de sounache, n'avait pu goûter que ce jus-là, je connaîtrais encore que le vin de parche, et je dirais point de mal du Noah. Mouais, qui est pourtant bon à valouer. Et qu'on dit, pour ben exigeant, oh, c'est plus fort que moi, je peux pas boire du vin de marchand. C'est épais, ça saoule et ça tache, le fond du verre, et devient noir et bleu. Quand que ça pendait à la moustache, on croit voir goûter du sang de bœuf. Pour moi, bon gens, v'là ma consigne. Gardez le corps solide et sain, buvez surtout du vrai vin de vigne, du vin de chez nous, du jus de raisin, et le pays connaîtra la joie. En nous montrant son vrai penchant, le jour qu'on n'y donnera plus à boire du vin de marchand.
Ici. Vous écoutez Ici.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur. Mourir sans la moindre peine au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux on se connaît déjà, on s'est vu de près, souviens-toi.